1057, un bel après-midi sur les zones de Boulevard 101. Merci d'être là. Allez-vous manquer d'électricité à un moment donné? Va-tu y avoir du délestage? Hey, Beauport, Beauport, on cancelle ça, on met ça dans le noir. Ça prend plus d'électricité à Charlebourg. Non, 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 on déleste Charlebourg aussi. Ça nous en prend en Haute-Ville de Québec.
Hey, t'as-tu parlé de Sainte-Foy?
Ben, les gens de Cap-Rouge vont payer des enveloppes brunes, d'après moi, là.
Je sais pas, mais de voir Pierre Fitzgibbon qui dit... Et j'utilise les mots qu'il utilise, là, puis ça, c'est le nouveau mot pour dire « nous avons été incompétents », OK? Pierre Fitzgibbon dit qu'il a été pris de court par le manque d'électricité.
Pris de court.
Il a été pris de court.
OK.
T'sais, on pourrait dire aussi manque de planification. On pourrait dire manque de vision aussi. On pourrait dire incompétence. Mais eux choisissent maintenant le mot, la phrase en fait, « on a été pris de court ». Et ça a l'air que c'est comme ça partout dans le monde. Ils ont tous été pris de court devant le fait qu'on commence à manquer d'électricité.
On est dans le doux, hein? On est vraiment dans le doux.
Tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, pendant la pandémie, il y avait la critique à l'égard du gouvernement, puis les gens disaient « Aurais-tu fait mieux? » Oui, mais non, on n'aurait probablement
moi,
pas fait
ça.
Mieux. Ah ouais, toi, tu disais ça.
Mais sur des points, j'étais critique pareil.
Ouais, mais tu sais, aurais-tu fait mieux? Je veux dire, tu peux dire ça à quelqu'un qui disait être capable de prendre le Québec en main puis de le gouverner. Mais pour des gens ordinaires, des payeurs de taxes qui disent « Hey, attends un peu, là, à un moment donné, ça prend plus de planification. » Puis même pour des petites entreprises, il y a énormément de planification qui est faite. Ils se voient sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans.
Ouais.
Puis de voir que le gouvernement du Québec dit « Non, non, on a été pris de court pour Hydro-Québec. C'est la raison pour laquelle on a des problèmes avec l'électricité présentement. » C'est un peu gênant.
Puis c'est dur à imaginer,
puis
oui.
Puis tu sais, je suis très dur à l'égard de la CAQ, mais on peut embarquer là-dedans les libéraux qui ont été là pendant des années et des années. On peut embarquer là-dedans le PQ qui était, quoi, 18 mois au pouvoir à peu près là-dedans.
Mais toi puis moi, on le dit souvent, on a vraiment une culture de travailler comme une fois dans le problème et non en amont. Puis c'est ce qui nuit énormément à la politique en ce moment.
Fait que tu sais, le fait que Pierre Fitzgibbon dise « on a été pris de court par le manque d'électricité », ça me donne juste un peu plus de réponses sur les fameux reportages où on nous présente des gens qui sont pratiquement en fin de vie, à l'âge de 62 ans, où ils attendent la mort dans un studio subventionné. Puis on dit, ce citoyen-là, c'est un citoyen idéal. Le monsieur, il est sur son sofa dans sa chambre, qui lui sert de salon aussi et d'endroit pour aller aux toilettes. Puis on nous dit dans le Journal de Québec que lui, il consomme pas beaucoup d'électricité, puis c'est le citoyen parfait. Moi, à 62 ans, je serai pas en fin de vie. 62 ans, je veux une belle qualité de vie pour moi, pour les gens qui m'accompagnent dans ma vie, puis pour mes enfants. Puis c'est pas vrai que je vais rester dans un studio subventionné par le gouvernement, puis que je vais appeler le Journal de Québec en disant « Hey, venez chez nous prendre des photos, puis dites à quel point je suis un bon citoyen ». Je ne sais pas pourquoi le Journal de Québec est embarqué là-dedans. Je dis Journal de Québec, mais mettons Québécois, puis bien des journalistes à Radio-Canada aussi sont embarqués là-dedans. Comme quoi, on est énergivore. Moi, l'hiver, quand il fait moins 20 dehors, je ne chauffe pas pour rien la maison en dedans. Puis l'été, je ne mets pas les calorifères dans le fond. Là. On est un pays nordique, on a besoin d'électricité. Ce n'est pas à moi de planifier nos besoins en barrage ou nos besoins en centrale nucléaire au Canada ou nos besoins en éolienne. C'est à eux de le faire. Fait que quand ils me disent « Hey, on a été pris de court », puis en plus, on nous traite de maudits pas bons parce qu'on consomme beaucoup d'électricité, je leur dis « C'est votre job de nous fournir en électricité. On vous donne tellement d'argent, tant en impôts qu'en taxes. » Faites votre job. Dites-nous pas « on a été pris de court », ça devrait jamais exister quand vous êtes un gouvernement. Vous devriez toujours être dans la planification. Puis on en parlait hier, il y a 20 centrales nucléaires au Canada actives actuellement. Puis ils citent, alors qu'on sait, selon les scientifiques, les experts, on sait que c'est le moyen le plus propre de produire de l'énergie, les centrales nucléaires. Ici, ce ne sera jamais accepté parce que parfois, on agit comme des attardés mentaux dans la planification de projet. Ah non, mais on va prendre des éoliennes. Oui, on va les bâtir où, les éoliennes? Bon, on va demander à des agriculteurs, là, on va leur donner 35 000 $ en redevance par année, puis ils vont accepter. Oui, mais les agriculteurs, c'est notre garde-manger, là. On a besoin de fruits, on a besoin de légumes, on a besoin de ces gens-là. Ah, mais c'est pas grave, ils vont mettre des éoliennes, là, 35 000 par année. C'est n'importe quoi. Puis que Pierre Fitzgibbon utilise le mot « pris de court », moi, je le prends pas. Puis vous devriez pas le prendre non plus. Puis j'espère juste que ces gens-là, qui avaient la prétention de pouvoir diriger un gouvernement, vont tomber aux prochaines élections. Ça sera un autre pas bon.
Mm.
OK? Ça sera un autre pas bon, mais au moins, on sera sur le dos de quelqu'un d'autre. 418-971-1021, 418-971-1021. Je vais reprendre mes esprits, parce que là, c'est mon chum Louis Gauthier, chroniqueur international, qui est là. Salut, Louis!
Bonjour, Québec. Bon, notre Yannick National qui a fait sa montée de lait.
Et voilà, c'est fait, c'est réglé.
Du nombril de la semaine.
Toi, tu as des entreprises, là, tu dois constamment planifier, Louis, puis de voir que le gouvernement dit « Hey, désolé, on a été pris de court. » Moi, je trouve ça inacceptable. Puis ces gens-là, s'ils étaient dans l'entreprise privée, se feraient crisser dehors à grands coups de pied dans le cul. Mais comme c'est le gouvernement qui est en place, ben, on doit attendre aux prochaines élections avant de les mettre dehors.
Je vais te sortir une donnée mathématique. Lorsque la CAQ a pris le pouvoir il y a 5 ans et demi, ils avaient dans les coffres 37 milliards de dollars. On a un budget déficitaire de 11 milliards de dollars. C'est 48 milliards de dollars qui ont flambé sans qu'on voit, avec un petit cadeau de 5 à 600 dollars lors de la dernière élection pour donner aux électeurs afin qu'ils votent pour eux. Alors, c'est pour ça qu'on a voté. Point à la ligne.
Mais t'en fais de la planification, toi?
Oui.
Ouais. Si tu avais un gestionnaire que tu avais mis dans ton entreprise pour faire de la planification, puis il dit hey, « je m'excuse, Louis, j'ai été pris de court », ce qui fait en sorte que tu vas être dans la marde, tu vas manquer d'électricité dans certaines de tes entreprises, qu'est-ce que tu ferais avec ce gestionnaire-là? Ça serait « merci, bonsoir, bye ».
Ben, dans les mises à jour que je fais à chaque mois, il n'y aurait pas passé le test du 3 mois, ça c'est sûr en partant. Je fais souvent de la restructuration d'entreprise. Il faut rebâtir. C'est ce que j'ai fait à Winnipeg pendant 4 mois. Puis, il faut boucher les trous. Il faut aller chercher où c'est allé. Il faut chercher les erreurs. L'histoire de Pierre Fitzgibbon, c'est tout simplement pour penser endormir la population puis prendre l'électeur pour le plus parfait des imbéciles qui n'existe pas sur la planète. Parce que c'est impossible qu'au Québec, on manque d'électricité. C'est tout simplement une façon de contenir l'énergie qu'on a dans les différents plans hydroélectriques à travers la province. Alors, c'est juste qu'on n'a pas, ouvert la valve plus vite que d'habitude. On ne se rend pas compte qu'il y a 1,2 million de plus de citoyens canadiens, dont 525 000 au Québec. Il y a bulleuse de construction qui se fait. On est rendu avec les véhicules électriques que ça consomme également. Il y a un paquet de facteurs. Puis on dirait que les babines n'ont pas suivi les bottines à un certain moment dans la bonne conscience énergétique et écologique qu'on a voulu se donner au gouvernement du Québec.
Ah, c'est très weird ce qui nous arrive présentement. Puis de voir que les journalistes continuent de nous taper sur la tête en nous présentant des citoyens qui sont, tu m'excuseras parce que je sais que ça a été ta fête il y a de ça quelques heures, là.
Oui.
Mais tu sais, un homme de 62 ans qui est à la retraite dans un HLM, qui reste dans une pièce, tu sais, moi j'essaie de ne pas le juger sur son mode de vie, mais il n'y a personne qui veut finir comme ce gars-là, là.
Ben moi, je vais mettre ça de 20 ans parce que j'ai 60 ans puis je n'ai pas fini puis je ne vois pas demain la retraite parce que ça ne me sonne pas dans la tête. Je travaille encore. Puis comme je dis avec mon épouse souvent, l'épicerie qu'on fait à deux et le prix est tout simplement le même prix qu'on faisait une épicerie lorsqu'on était 5 à la maison. Mais maintenant, on le fait à deux plus 15%. C'est ce que ça représente aujourd'hui. Puis je te parle d'à peu près en même pas 20 ans. Alors, oui, on est mal. Oui, on va travailler, mais travailler, se tenir occupé, qu'on fasse du travail de mentorat, qu'on fasse du travail pro bono, ça occupe l'esprit. C'est important. Puis, ça maintient notre indice de la bonne humeur à chaque jour lorsqu'on entend des conneries de la sorte de Pierre Fitzgibbon.
Louis Gauthier, on parle souvent d'actualité internationale avec toi. On en est où? Mm-hmm. Là, peux-tu nous faire une mise à jour entre la Russie, puis l'Ukraine, puis l'OTAN aussi, qui pourrait peut-être s'immiscer dans le conflit?
Ce matin, l'impression que j'ai eue, ça m'a donné l'idée suivante. Est-ce qu'on est en train d'essayer de gagner quel est le conflit mondial qui sera la saveur de la journée ou de la semaine? Hier, les hauts dirigeants de l'armée russe ont publié qu'ils détenaient 400 km² du territoire occupé ukrainien qui était sous contrôle russe. Selon les chiffres que nous avons à l'ONU, c'est 505 km² qu'ils détiennent. Donc, c'est la région du sud-est, donc Mariupol, on a entendu Kharkiv, plus à l'est de Kharkiv, toute cette bande-là qui donne justement sur la mer de Crimée. Et aujourd'hui, bien, Jens Stoltenberg prépare un sommet des dirigeants de l'OTAN à Bruxelles. Lui plaide pour qu'on crée un fonds d'urgence de 146 milliards de dollars en argent canadien, c'est à peu près 100 milliards de dollars d'euros, pour un fonds d'urgence pour l'Ukraine. Et on sait très bien que Vladimir Poutine ne veut pas de présence de l'OTAN en Ukraine. Et là, ben, c'est le secrétaire général qui vient dire, nous autres, on veut avoir une présence sur le territoire ukrainien pour aider militairement, peu importe la manière monétaire ou en armement, Kiev à combattre son territoire. Donc, ce n'est pas rien pour arranger la situation. D'un côté, on ne veut pas voir l'OTAN, puis c'est une raison pourquoi on a le conflit en Ukraine. Et l'OTAN en met de l'huile sur le feu en disant « on veut avoir de l'argent ». Il ne faut pas oublier là-dedans que sur 146 milliards de dollars, il y a un 60 milliards de dollars qui vient du gouvernement américain qui n'est pas encore versé. Et en plus de ça, Kiev vient annoncer que l'âge de conscription va passer de 27 à 25 ans. Le problème avec cette situation-là, c'est que tous ceux qui ont 25 ans et moins ont déjà quitté le pays, ça fait déjà 2 ans, pour ne justement pas participer à l'effort de guerre en Russie. On a d'ailleurs beaucoup de jeunes familles ukrainiennes ici au Canada qui étaient du secteur sud, justement à Mariupol où c'est arrivé. Cette situation-là. Donc, on se retrouve avec un conflit qu'on croyait se terminer. Puis, une autre question qu'on se pose aussi, on recule, là, 10 ans, la Crimée est tombée sous la gouvernance russe. 10 ans plus tard, on retrouve 505 kilomètres carrés appartenant aux Russes. Donc, est-ce que les Russes sont en train d'établir un plan d'annexion complet et total de l'Ukraine à tous les 10 ans? Ça voudrait dire que d'ici 5 ans, de 5 à 10 ans, l'Ukraine reviendrait sous le giron russe. Donc, ça revient à ce qu'on disait, c'est que Vladimir Poutine, son grand rêve est de recréer une genre d'URSS 2.0 avec un rideau de fer comme il avait été fait, mais en faisant le rideau plus vers le nord, du nord-est vers le nord-ouest, en passant par la Biélorussie, puis en allant prendre les pays scandinaves de ce côté-là.
Est-ce qu'il y a des discussions entre l'Ukraine et la Russie sur une résolution de conflit? Puis est-ce que ce serait pas avantageux peut-être pour l'Ukraine de négocier avec la Russie? Parce que je veux dire que ça dure comme ça, ce conflit-là. T'sais, la Russie aurait pu écraser l'Ukraine en quelques jours ou peut-être même quelques semaines si vraiment le désir de Vladimir Poutine avait été ça. On va se le dire, ils détiennent des armes que l'Ukraine n'a pas. Puis on a utilisé des personnes âgées en fin de vie pratiquement au début du conflit. On les envoyait en Ukraine. Ces gens-là sont malheureusement décédés et ont fait quelques dommages. Puis là, ben maintenant, il y a quelques Russes un peu plus jeunes qui sont en Ukraine puis ont réussi à gagner du territoire. Mais à qui ça profite, ce conflit-là, entre les deux? Est-ce que les Américains profitent quelque part, au niveau peut-être stratégique, au niveau des armes? Qu'est-ce qui se passe pour pas que personne se mette entre les deux en disant « c'est parce que là, ça ne peut plus escalader, ça va mal finir ».
Bien, ça profite aux compagnies qui fabriquent les armes, parce qu'ils vendent beaucoup d'armes, ils vendent beaucoup de munitions dans ce genre de conflit. On a parlé de la situation financière des Russes, qui sont très riches, qui ont une économie de guerre. Eux autres, ils sont patients, ils peuvent rouler là-dedans, puis ils sont très forts, puis tu ne diras pas à un Russe quoi faire. Pour répondre au premier élément de ta question, est-ce que se négocie entre les Russes et les Ukrainiens? Pas directement, mais indirectement. Puis on parlait d'Erdogan en Turquie, qui est à la table des négociations pour trouver un moyen. On sait qu'on a les Chinois qui essaient d'intervenir dans ce conflit-là pour essayer de tisser des liens, de règlement dans ce genre de conflit, mais c'est rien pour aider la situation lorsqu'une annonce officielle d'acquisition de territoire du côté des Russes et que ce matin, l'OTAN à Bruxelles annonce vouloir créer un fonds d'urgence de 146 milliards. Alors, ce n'est rien pour aider la situation, mais pour répondre à ta question, non, ça ne répond pas, ça ne négocie pas directement entre les deux parties. C'est indirect, mais là, il y a trop de personnes, je te dirais, empreintes de bonne volonté superficielle pour essayer de trouver une solution à la fin de ce conflit-là, mais en essayant de gagner au change certaines parties du territoire, okay. comme je vous parlais au niveau économique, okay. le zinc et le cobalt, qui est très omniprésent dans le secteur acquis présentement ou pas loin de Kharkiv.
Je vais te poser cette question-là parce que je la vois régulièrement passer sur Twitter. Est-ce que on prend l'argent des Américains pour envoyer en Ukraine pour qu'ensuite cet argent-là serve à de grands armuriers américains?
Oui, ça peut arriver. C'est l'argent. L'argent tourne dans. Ça vire. L'argent va du côté ukrainien, mais vient servir à des fabrications d'armes. Les fabricants d'armes, que ce soit américains ou européens ou peu importe d'où ça vient. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on hésite. Parce que l'Ukraine, ça a quand même un ADN de gouvernement corrompu.
Exact.
Et on le sait, Volodymyr Zelensky a dû se départir de certains éléments très, très près de sa gouvernance parce qu'on avait des problèmes de corruption à l'intérieur même. Et ça, ça a toujours traîné à l'Ukraine depuis 1991-92. On a toujours eu ce problème-là. C'était un problème, justement, lors des élections présidentielles dans le pays. On les faisait débarquer parce qu'il y avait tout le temps des soupçons et des accusations de corruption. Donc, ça demeure tout le temps une toile de fond. Et c'est peut-être un des éléments qui retient le Congrès américain à verser le 60 milliards de dollars. Puis c'est des discussions qu'il va avoir concernant le 146 milliards de dollars. Exact. Il va falloir s'assurer où ça va aller, puis à quoi ça va servir, puis qui va l'administrer, ce fonds-là. Donc, c'est la même chose que ce qui se passe aux États-Unis. Puis, pendant ce temps-là, bien, les Russes font une menace d'utilisation d'armement nucléaire. Donc, c'est tout le temps une escalade, c'est une guerre froide qui se crée, puis on espère avoir la solution. Et en toile de fond, une deuxième toile de fond, on dirait que tout le monde attend le résultat de l'élection américaine, donc en novembre. Donc, on risque d'avoir encore un 4 à 5 mois d'incertitude à savoir comment que ça va se régler, qu'est-ce qui se passe, la guerre au Hamas. On sait qu'il y a beaucoup de pression du côté des Israéliens pour mettre un terme à ça. Netanyahou a semblé avoir une petite ouverture, mais aussitôt qu'il a donné cette ouverture-là, le Hamas se dit qu'eux autres n'abandonneraient jamais. Donc, vois-tu, ça vient de relancer. On se relance toujours la balle. T'sais. À la minute qu'il y a une lueur d'espoir, on vient d'éteindre l'espoir avec une déclaration qui fait frémir tout le monde.
Oui, puis il y a quand même les risques de Troisième Guerre mondiale là-dedans, que tout le monde est très, 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 très frileux, parce que si un pays de l'OTAN embarque à défendre l'Ukraine ou à arrêter cette guerre-là, peu importe comment, les autres doivent suivre. Puis c'est ce risque-là qui fait peur à bien des gens d'aussi commencer à... peut-être aller un petit peu plus de front, là, ce serait un affront total, puis une division aussi mondiale.
Bien, je suis d'accord avec toi, Pascal, mais en théorie, on est déjà en formation de guerre, de Troisième Guerre mondiale, parce que, regarde, on parle du bloc de l'Est présentement, c'est là qu'il y a un gros, gros conflit. On regarde également ce qui se passe en Israël, le conflit arabo-juif qui se fait là.
Nous sommes dans le bras tendu, on a encore le bras tendu. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on n'est pas en front, là.
Puis on regarde dans le Pacifique qu'est-ce qui se passe dans le détroit de Taipei, en Taïwan. Puis je dois dire que c'est une pause naturelle qui s'est créée hier avec le fameux tremblement de terre qui a frappé la région de Henan en Taïwan. Mais veut pas, on a ce conflit-là, on a cette présence navale chinoise qui est là avec la présence navale australienne, néerlandaise, américaine. Tout le monde est dans ce coin-là. Donc, on a la toile de fond de ce qu'était en fait la Deuxième Guerre mondiale. Et en théorie, on est en train de placer des pions partout en prévision de, mais est-ce qu'elle va avoir vraiment lieu? Et ça, c'est ce qui va déterminer, c'est ce que je disais la semaine dernière, ce qui va déterminer si elle aura lieu ou non, ça sera la force de la gouvernance occidentale. Présentement, elle est très anémique, elle n'agit pas, elle est trop du côté diplomatique, essayer de négocier certaines portes de sortie avec de l'argent, ça ne fonctionne pas, ça va prendre un point sur la table, puis ça, bien, ça vient vers une gouvernance occidentale qui va être plus forte. Donc, on est encore dans, je vous dirais, entre un 4 à 5 mois d'incertitude où on va se tirer la couverte d'un bord puis de l'autre partout dans le monde. Mais en théorie, on a la présence d'une Troisième Guerre mondiale. Tout le monde s'affiche, tout le monde répond à l'autre sur ce qu'il a dit. Donc, on a des propos de guerre froide, on a des propos de formation géopolitique en Ukraine, puis on voit ce qui se passe dans l'océan Pacifique, dans la côte Pacifique, c'est-à-dire le détroit de Taipei et tout ça. Donc, c'est trois éléments qui forment un conflit mondial comme on l'a vu dans l'histoire.
Louis Gauthier, chroniqueur international, tu t'en vas vers Winnipeg. Là. Je te souhaite de passer un beau voyage. Tu es à quelle hauteur? Là?
Là, je suis présentement sur la 17 à 1h20 à l'ouest de Sault-Sainte-Marie, où l'autoroute a été bloquée justement parce que le lac supérieur... on a eu des vents forts, très, très forts. Là. On a vu ce qui est arrivé au lac Saint-Jean.
Ouais.
On prévoit encore des chutes de neige. Donc, l'Ontario a eu des vents très, très forts qui est venu du Colorado. On attend une autre dépression du Colorado. Donc, la 17 a été fermée justement pour nettoyer les arbres qui sont tombés et tout ça. T'sais, on est sur le bord d'un lac, d'un des grands lacs. Alors, c'est tout le temps le risque quand, lorsqu'on passe ici, que ce soit l'hiver ou l'été.
Louis Gauthier, merci. À la semaine prochaine, mon ami.
Hey, bonne journée, Québec. Et délestez-vous de la bonne façon.
Oui, bonne fête encore, jeune homme.
Oh, merci. Puis que je te vois jamais redonner l'exemple d'un gars de 62 ans parce que tu vas atteindre ça à un moment donné. Puis c'est peut-être bien moi qui va changer ta couche de rétention.
Ouais, c'est ça. Salut, Louis.
Salut tout le monde. Salut. Bye.
Bye-bye. OK. C'était Louis Gauthier, notre chroniqueur international avec qui on jase à chaque mercredi. C'est toujours un plaisir. Hey, qu'est-ce que je vous fais jouer là présentement? Ah, que j'entends dans mon oreille? Des concours, je veux gagner. Hein? Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça, Tom?
Pourquoi?
On le sait pas. On le sait pas.
Mais ça veut dire quelque chose, je pense, cette une-là.
Ah, ben peut-être. Moi, okay. J'ai pas le droit de le dire. Des concours, je vais gagner. C'est quoi cette une-là?
Montre le son.
Elle sait même pas.